Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Judith Gautier, née à Paris en 1845, fut la première femme à entrer à l'Académie Goncourt en 1910. Cette femme de lettres, brillante et foncièrement indépendante, est l'une des personnalités les plus fascinantes de son époque. Proche des grands noms de la littérature française du XIXe siècle, de Victor Hugo à Baudelaire en passant par Gustave Flaubert, passionnée par l'Asie, pionnière dans l'analyse de la mystique wagnérienne, Judith Gautier étonne, subjugue, agace, dérange les conventions de son époque. Elle sera adulée tout autant que traînée dans la boue par ses proches et ses contemporains. Fille de l'écrivain Théophile Gautier et d'Ernesta Grisi, elle passe sa petite enfance dans une liberté quasi absolue, ce qui paraît avoir été à l'origine de sa personnalité flamboyante. À une époque où l'éducation des jeunes filles était souvent réduite aux arts d'agrément, Judith se cultive librement en furetant dans la bibliothèque paternelle. Dotée d'une intelligence exceptionnelle, rien ne lui échappe. Elle écrit dans ses mémoires « Plus que jamais, une haute fantaisie présidait à mes études. J'étais curieuse de tout et je menais des explorations à travers n'importe quelle science au hasard de mon caprice. » Passionnée de civilisation chinoise, comme la plupart de ses contemporains à la fin du 19e, Théophile Gautier recueille un lettré chinois réfugié politique. Ting Dongling s'installe quelque temps dans la maison familiale et devient le précepteur de Judith. Sous sa conduite, la jeune fille étudie et traduit de nombreux textes et manuscrits. Bientôt, elle se spécialise en littérature et civilisation chinoise, puis étend son champ d'investigation au Japon. Le Moyen-Orient devient également un de ses sujets d'étude. Judith baigne constamment dans le cercle littéraire de son père. Depuis son enfance, elle rencontre régulièrement Banville, Flaubert, les Goncourt, Baudelaire, Champfleury, Arsène Houssaye ou encore Gustave Doré. C'est donc tout naturellement que Judith se lance dans une carrière littéraire. Son premier article, une critique de la traduction d'Eureka d'Edgar Poe par Charles Baudelaire, est publié dans le Moniteur à l'instigation de son père. Elle n'a alors que 14 ans. Baudelaire, surpris par le talent de la jeune fille, lui écrira ces mots « Quand il ne m'eut plus été permis de douter, j'ai éprouvé un sentiment difficile à exprimer. Composé moitié de plaisir d'avoir été si bien compris, moitié de joie de voir qu'un de mes plus vieux amis et de mes plus chers amis avait une fille vraiment digne de lui. » Théophile Gautier, plus que jamais fier de sa fille, s'écrit « Elle est mon espoir et le plus parfait de mes poèmes. » À 22 ans, elle publie le livre de Jade, une collection d'anciens poèmes chinois, choisis et traduits avec l'assistance de son précepteur. Ce premier livre est un succès. Il semblerait d'ailleurs que parmi ses poèmes, il y en ait certains qu'elle ait écrits elle-même. Mais la critique reste encore en cours d'étude. Ses deux premiers romans, « Le dragon impérial » paru en 1869, est également un succès, et « L'usurpateur » paru en 1875, est salué par le public et l'Académie française. C'est le début d'une longue carrière, au cours de laquelle Judith Gautier écrira plus d'une dizaine de romans, des centaines d'articles et des livres de vulgarisation sur l'Asie. Près de 10 pièces de théâtre, dont certaines restent inédites, plusieurs recueils de poésie, de contes et de nouvelles. Et pourtant, son œuvre reste très mal connue. Le 19e siècle ne valorisait pas les talents des femmes. Loin de là. Certes, son talent est tel qu'elle sera la première femme admise à l'Académie Goncourt en 1910, mais ce sera tout. Aujourd'hui encore, nos manuels de littérature restent muets. Et pourtant, Judith Gautier a tout pour elle. Le talent, l'intelligence, l'érudition et la beauté. Une beauté inouïe d'après ses contemporains et une personnalité flamboyante. Ouragan et épilepsie-catalepsie, avait coutume de dire mon père pour définir mon caractère, écrit-elle dans ses mémoires. Il me faisait passer tantôt exaltée et enthousiaste, tantôt morne et dédaigneuse. Mon père m'incitait charitablement à choisir un terme entre ces deux extrêmes. Mais je lui répondais que c'était là une idée digne d'un classique et qu'un romantique comme lui savait que rien n'est plus bourgeois que le juste milieu. Le juste milieu. Jamais Judith ne pourra se résoudre à répondre aux vœux de son père. Baudelaire lui prédit qu'elle causera des naufrages, et en effet, elle en fait des ravages. Il y a de nombreux admirateurs, et un prince persan la poursuit même de ses assiduités pendant de longues années. Cependant, elle jette son dévolu sur Catulle Mendès, un écrivain jeune et très séduisant. Théophile Gautier, très au fait de la vie dissolue de son futur gendre, s'oppose à ce mariage dont il prédit le triste dénouement. Le mariage a lieu, Judith a pour témoin Flaubert et Turgan, et Catulle est accompagnée de Lecomte de Lisle et de Villiers de l'Isle-Adam. Théophile ne s'était malheureusement pas trompé, et Judith vivra des jours sombres auprès de cet homme dont elle était très amoureuse. Ils finissent par se séparer, laissant Catulle se livrer à sa passion pour sa maîtresse, Augusta Holmès, avec qui il avait eu plusieurs enfants, avant et pendant son mariage avec Judith. Cette expérience a une influence sur le reste de la vie de Judith, qui ne se remarie pas et reste toujours méfiante à l'égard des autres. Le comportement de celui que son père appelait « crapule m'embête » avait fait d'elle la risée de tout Paris, et les médisances allaient bon train. Pourtant, elle ne sera jamais avare de son savoir, heureuse d'en secourir plus d'un, généreuse de sa table et du peu d'argent qu'elle possédait. Si Judith n'est pas devenue l'égérie de son mari, elle le devient pour bien d'autres artistes. En 1869, elle rencontre Richard Wagner. Subjugué, Wagner se serait inspiré d'elle pour les filles fleurs de Parsifal et aurait écrit près d'elle le troisième acte de Siegfried. Judith devient une habituée de Bayreuth, où elle enseigne au maître les subtilités des mystiques orientaux. Si elle ne devient pas sa maîtresse, elle fut assurément son dernier amour. Elle écrit plusieurs livres sur Wagner et son art, et ils échangeront une volumineuse correspondance. Plusieurs années plus tard, Victor Hugo, revenu en France, tombe sous son charme. Le grand écrivain écrit en son honneur l'un de ses très rares sonnets et deviendra son amant. Judith, nos deux destins sont plus près l'un de l'autre qu'on ne croirait avoir mon visage et le vôtre. Nous sommes tous les deux voisins du ciel, madame, puisque vous êtes belle et puisque je suis vieux. Enfin officiellement divorcée en 1896, Judith vit désormais en femme indépendante et le clame haut et fort. Indépendante, j'ai vécu, indépendante, je vieillis, indépendante, je mourrai. Elle s'installe au 31 rue Washington dans un charmant appartement rempli de Bouddhas où elle tient salon tous les dimanches. Elle passe aussi beaucoup de temps dans sa villa en Bretagne, à Dinard, où elle étudie l'occultisme et les légendes celtiques. En 1904, le comité du prix Femina sollicite son adhésion. Mais la consécration survint en octobre 1910 lorsqu'elle devient la première femme à entrer à l'Académie Goncourt. Élue au second couvert, à la mort de Jules Renard, elle prend ironiquement la place de celui qui l'a désignée comme une vieille outre noire, mauvaise et fielleuse, couronnée de roses comme une vache de concours. L'élégance n'est pas toujours de mise chez les lettrés, loin s'en faut. La critique acerbe a toujours talonné Judith, tout comme les éloges à son talent. Mais laissons parler Anatole France de son roman « Le dragon impérial ». Le dragon impérial est un livre tout brodé d'or et de soie, et d'un style limpide dans son éclat. Je ne parle pas des descriptions qui sont merveilleuses, mais la figure principale, qui se détache sur un fond d'une richesse inouïe, le poète Colin Tsin, a déjà ce caractère de fierté sauvage, d'héroïsme juvénile, de chevalerie étrange, que Judith Gautier s'est imprimé à ses principales créations et qui les rend si originales. L'imagination de la jeune femme est cruelle et violente dans cette première œuvre, mais elle a déjà et définitivement cette chasteté fière et cette pureté romanesque qui l'honore. Judith Gautier meurt en 1917, à l'âge de 72 ans. Inhumée à Dinard, sa tombe porte une épitaphe en chinois signifiant « La lumière du ciel arrive ». Puisse-t-elle illuminer à nouveau nos manuels littéraires et nous faire redécouvrir le style limpide dans son éclat de Judith Gautier.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les jours à 7h30 et 13h30.